Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons nous poser la question aujourd'hui, savoir s'il était nécessaire que Jésus-Christ s'incarne pour restaurer le genre humain. Nous avons vu la dernière fois, était-il convenable que Jésus-Christ s'incarne ? La différence entre les deux questions, c'est que était-il convenable ? Cela répond à l'objection que nous nous faisons souvent lorsque nous voyons Jésus-Christ dans son humilité. Était-il convenable que Dieu s'abaissât comme il l'a fait ? Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, notamment dans sa passion, pleinement soumis à la volonté des hommes, parce que pleinement soumis à la volonté de Dieu, bien sûr. Enfin, nous voyons qu'il se laisse faire, que les hommes lui commandent. Et c'est en répondant à la convenance de l'incarnation, en montrant la convenance de l'incarnation, que nous répondons à cette objection. Oui, c'était convenable que Dieu s'abaissât. Maintenant, nous nous posons la question, était-ce nécessaire pour restaurer le genre humain ? Cela va nous montrer deux choses. La première, la gravité de la situation dans laquelle le genre humain, donc nous tous, chacun d'entre nous, se trouve après le péché originel et a fortiori, après les péchés personnels. La deuxième chose que cela nous montre, c'est la bonté de Dieu. Et on peut même ajouter que cela nous montre une troisième chose, comment nous devons nous comporter envers notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné. Premièrement, la gravité de la situation. Saint Thomas d'Aquin n'hésite pas à dire que le péché a quelque chose d'infini à cause de l'infinie majesté de la personne offensée. Et par conséquent, il va falloir, pour le réparer convenablement, un acte de soumission infinie envers Dieu, un acte d'une valeur infinie. Or, la gravité de la faute se prend du côté de la personne offensée. C'est ainsi que si un grand frère donne injustement une gifle à sa sœur, à sa petite sœur, c'est pas bien, mais on ne le mettra pas en prison pour cela. S'il donne une gifle à sa grande sœur mariée, il y a déjà une offense qui est beaucoup plus grave. S'il avait l'audace de donner une gifle à son père, ce serait gravissime, cela manquerait au quatrième commandement. S'il lui prenait l'audace de donner la même gifle à un clerc, il serait excommunié. Et le péché, c'est plus qu'une gifle donnée à Dieu, c'est vraiment le refus de Dieu. On voit donc que la gravité du péché ne vient pas de ce à quoi l'homme s'est attaché, le bien d'ici-bas qui l'a attiré vers le péché, mais vient de la révolte contre Dieu. À l'inverse, pour réparer, c'est plus la personne est petite, plus la réparation est petite. Si un enfant prétend demander pardon à un roi qui a été offensé, demander pardon pour, un criminel, la petite enfant risque de ne pas être écoutée. Si quelqu'un de plus considérable demande pardon, on l'écoutera un peu plus. Si c'est un ministre, le roi l'écoutera. si c'est l'empereur ou le pape, le roi, évidemment, sera enclin à donner satisfaction. Et donc, nous avons une double infinité, si l'on peut dire, l'infinie gravité du péché, quelque chose d'infini dans la gravité du péché, et puis l'infinie petitesse de la réparation que l'homme pourrait offrir à Dieu. D'une part, parce que Dieu est infini, infiniment grand, et d'autre part, comment l'homme pourrait-il réparer pour tous ses congénères, pour tous les hommes? Il n'a aucun pouvoir sur eux. Déjà, on ne peut pas réparer pour soi-même, a fortiori pour tous les hommes. Et Dieu voulait réparer, nous le verrons à la question suivante dans le sermon de la semaine prochaine. Dieu voulait réparer. Il aurait pu sauver l'homme de multiples autres manières. En ce sens, l'incarnation n'était pas rigoureusement nécessaire. Parce que Dieu pouvait pardonner à l'homme, il pouvait réparer d'autres manières. Un seul acte d'amour du Verbe incarné aurait suffi pour racheter l'homme, la passion n'était pas nécessaire, même l'incarnation n'était pas strictement nécessaire. Mais saint Thomas nous dit, il y a deux types de nécessités, la nécessité absolue, sans laquelle on ne peut pas arriver au but, par exemple manger pour vivre, celui qui ne mange pas ne peut pas vivre, il meurt d'inanition. Et puis la nécessité relative, par exemple, d'avoir un cheval pour voyager, dit-il. Il est évident que de nécessité absolue, Dieu n'était pas tenu d'envoyer son Fils sur terre pour s'incarner. Comme je vous l'ai dit, il pouvait sauver les hommes de multiples autres manières tout aussi efficaces. Mais, de façon relative, saint Augustin et tous les saints nous affirment que Dieu a choisi la meilleure manière pour nous sauver. Et il le montre par le fait que, et c'est là qu'on voit la bonté de Dieu, c'est la deuxième partie, le deuxième point que je voulais vous faire remarquer. On voit la bonté de Dieu dans le fait que Dieu s'abaisse pour nous élever. Il nous élève tout d'abord dans la foi. Il nous donne une foi plus assurée du fait que l'on croit Dieu qui nous parle en personne et non pas, comme dans l'Ancien Testament, qui nous parlait par les prophètes. Saint Augustin nous dit, pour que l'homme marche avec plus de confiance vers la vérité en personne, c'est-à-dire le Fils de Dieu, a assumé l'humanité et a constitué et fondé la foi. C'est ce qu'on voit chez les Samaritains. Lorsque la Samaritaine, après avoir discuté et parlé avec Jésus, rentre dans Samarie, dans la ville, et témoigne qu'elle a discuté avec le Messie, les Samaritains à ce moment-là viennent voir notre Seigneur et au retour ils disent à la Samaritaine « Ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons, mais nous l'avons entendu, lui, et nous croyons qu'il est le Sauveur du monde. » Notre Seigneur, en s'incarnant, soulève notre espérance. Le terme est de saint Thomas d'Aquin, il est beau. On aurait pu dire renforce notre espérance, mais il la soulève, c'est-à-dire qu'il nous porte vers le ciel. Saint Augustin, toujours, rien n'était aussi nécessaire pour relever notre espérance que de nous montrer combien Dieu nous aimait. Quel signe plus évident pouvons-nous en avoir de cet amour de Dieu que l'union du Fils de Dieu à notre nature. En effet, nous ne recevons pas seulement la grâce en recevant Jésus-Christ, mais l'auteur de la grâce. Il faut nous rappeler que l'espérance est cette vertu qui nous donne la confiance dans les choses difficiles, voire très difficiles. C'est parce que notre salut est une œuvre extraordinaire qui nous fait passer de la terre au ciel que nous avons besoin de la vertu d'espérance, parce que sinon nous ne pourrions pas croire que ce soit possible, et nous avons besoin de nous appuyer sur quelqu'un qui soit suffisamment fort pour nous mener jusqu'au ciel. Nous savons que sans Jésus-Christ, l'entreprise est impossible à mener à terme. Et donc notre Seigneur soulève notre espérance parce qu'il se donne lui-même à nous, et en se donnant à nous, en se communiquant à la nature humaine, il soulève notre nature humaine. Bien sûr, nous verrons qu'encore faut-il se laisser soulever. Nous verrons ça dans la troisième partie. Quiconque désormais est uni à Jésus-Christ est porté par lui, est soulevé par lui, est mené par lui jusqu'à la Sainte Trinité, c'est-à-dire jusqu'au ciel. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Dit Saint Paul. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Notre charité est réveillée au maximum par ce mystère, nous dit saint Thomas d'Aquin. Et saint Augustin, quel plus grand motif y a-t-il de la venue du Seigneur que de nous montrer son amour pour nous? Si nous avons tardé à l'aimer, maintenant au moins ne tardons pas à lui rendre amour pour amour. La grandeur de l'amour, de l'amitié, la grande amitié divine, la grandeur de l'amour, c'est de nous faire pénétrer dans le bien, de nous mettre en possession du bien. Et notre Seigneur nous met en possession du bien divin. En ce sens, l'incarnation réalise quelque chose de plus grand, bien entendu, que la création, mais même que le don de la grâce à Adam et Ève. Et c'est pourquoi nous avons chanté dans la nuit pascale, dans l'Exultet, « Ô bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur si grand et d'une telle qualité !» Et nous disons dans l'offertoire de la messe, « Ô Dieu qui avait instauré la nature humaine d'une façon si admirable, elle l'avait restaurée d'une façon plus admirable encore. Donnez-nous, par le mystère de cette eau, de ce vin, de participer à la divinité de celui qui a daigné partager notre humanité. Ce qui est important, donnez-nous de participer à la divinité de celui qui a daigné partager notre humanité. L'incarnation va ensuite développer en nous toutes les vertus. Saint Thomas d'Aquin ne va pas faire la liste, il se contente de dire que notre Seigneur est un modèle de vie. Modèle de vie par ce qu'il est, dans la grâce. Il est beaucoup plus facile de comprendre le mystère de la grâce lorsqu'on contemple notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme élevé à la dignité divine. Et notre Seigneur n'est pas un modèle seulement dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il fait. Saint Augustin, l'homme que l'on pouvait voir, il ne fallait pas le suivre. Il fallait suivre Dieu que l'on ne pouvait pas voir. C'est donc pour donner à l'homme un modèle visible que l'homme pouvait suivre. C'est donc pour cela que Dieu s'est fait homme. Toutes les vertus que nous avons à mettre en œuvre Notre Seigneur les a pratiquées. Et il nous les montre dans l'Évangile, dans sa vie, dans la contemplation du chapelet, du rosaire. C'est d'ailleurs pourquoi la contemplation du rosaire est tellement importante. Elle est un résumé de tout ce que nous devons être par rapport à Dieu. Et donc, dans les mystères, il nous montre ce qu'est un chrétien. Dans les mystères joyeux, il nous montre principalement ce qu'est la vie de famille. Dans les mystères douloureux, il nous enseigne le sacrifice, quitter la terre, l'union à lui. Et dans les mystères douloureux, il nous montre cette union à lui qui se réalise pleinement. Saint Thomas termine en disant « L'incarnation est nécessaire à la pleine participation de la divinité qui est la béatitude véritable de l'homme et qui est le but, la fin de la vie humaine. » Dieu s'est fait homme, dit saint Augustin, pour que l'homme devienne Dieu. Nous n'avons pas fait les serments sur la grâce, ça manque peut-être un petit peu, il est évident que nous ne sommes pas des dieux, et pourtant l'Écriture sainte nous appelle des dieux, c'est-à-dire que la grâce nous rend participants de la divinité, elle nous adopte dans la famille de la Sainte Trinité, elle nous fait fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils par nature et nous, par la grâce, nous devenons les fils par adoption. Et cette adoption est une communication réelle de ce qui est la richesse de Dieu. Et lorsque nous serons au ciel, car j'espère bien, mes bien chers frères, que nous y serons tous, vous et moi, il faut travailler pour cela. Il faut supplier le bon Dieu pour cela. Donc lorsque nous serons au ciel, nous serons, on pourrait dire, baignés dans la Sainte Trinité, plongés dans la Sainte Trinité. C'est un mystère dont je vous parlerai une autre fois, mais nous commençons déjà à le toucher du doigt en méditant sur l'incarnation. Et saint Thomas termine en disant que l'incarnation nous éloigne du mal. Par ce mystère, l'homme apprend à n'avoir ni préférence ni respect pour le démon qui est l'auteur du péché. L'incarnation est tellement belle qu'elle nous fait mépriser les esprits orgueilleux qui se sont préférés à Dieu. Deuxième motif de nous éloigner du mal, la dignité de notre nature humaine, qu'il faut ne pas souiller par le péché. Saint Augustin, Dieu nous a montré la place éminente occupée par la nature humaine dans la création. En effet, notre Seigneur s'est incarné dans une nature humaine. On n'imagine pas notre Seigneur s'incarnant dans une nature animale. Ce serait pas convenable. Et cela nous montre quelle est la valeur de l'homme, la mission que l'homme a confiée, que Dieu a confiée à l'homme, le louer éternellement. Et tout cela, Dieu nous le montre du fait que le Verbe fait chair est apparu aux hommes comme un homme véritable. Et saint Léon, dans une phrase célèbre, dit « Chrétien reconnaît ta dignité » et après avoir été uni à la nature divine, ne va pas, par une conduite honteuse, retourner à ton ancienne bassesse. Ce qui nous éloigne du mal, troisièmement, c'est que la grâce détruit notre présomption. Jésus-Christ nous a été donné sans aucun mérite de notre part, il n'y a aucun mérite par lequel nous puissions dire que nous avons fait descendre le Fils de Dieu sur la terre. Cela nous montre que, une fois qu'il est descendu, certes, il nous communique ses mérites, mais ses mérites sont à lui, et nous n'avons aucun motif de nous glorifier, comme si nous avions pu influencer Dieu dans l'incarnation. Et cela fait tomber notre orgueil et notre présomption, et qui ont été les motifs du péché. L'incarnation est utile, cinquièmement, pour délivrer l'homme de la servitude du péché. Saint Augustin nous dit « Cela devait se faire de telle sorte que le diable fût vaincu par la justice de l'homme Jésus-Christ. » Et c'est pourquoi Jésus-Christ a satisfait pour nous. Satisfait, c'est-à-dire qu'il a il a payé pour nous, il a réparé pour nous. Il ne se contente pas d'effacer les conséquences du péché, il a effacé le péché lui-même. C'est en cela que notre Seigneur est vraiment miséricordieux, parce que, je crois que je vous l'ai déjà dit dans un sermon, la miséricorde telle que les protestants l'envisagent, ou les charismatiques, ou les modernistes, est une miséricorde qui prend l'homme tel qu'il est, mais ne le sort pas de sa misère. Tandis que la miséricorde de Jésus-Christ est une miséricorde qui change l'homme de l'intérieur et transforme profondément le pécheur en le faisant un saint. La dernière partie de ce sermon, je vais me dépêcher parce que il est temps, mais elle est très simple. Puisque notre Seigneur développe la foi, eh bien, cherchons à la développer en méditant sur sa vie. Puisqu'il soulève notre espérance, attachons-nous à lui pour monter au ciel avec lui. Puisqu'il réchauffe notre charité, suivant le conseil de Saint Augustin, si nous avons tardé à l'aimer, maintenant au moins ne tardons pas à lui rendre amour pour amour, et rendons-nous compte que grâce à l'incarnation, Dieu va considérer nos actes d'amour unis à ceux de Jésus-Christ, il va les considérer avec bienveillance, alors qu'avant, sans cela, ça aurait été de simples petits actes, d'ailleurs vraiment des actes d'amour, c'est même pas sûr, mais des actes venant de très bas. Puisque notre Seigneur est un modèle, prenons modèle sur lui et imitons-le. Puisque notre Seigneur nous emmène au ciel et dès ici-bas nous fait déjà participer à sa divinité, alors demandons-lui dans la communion sacramentelle, demandons-lui dans les communions spirituelles d'être pris avec lui, qu'il règne en nous, qu'il règne dans nos âmes, que nous soyons tout à lui et que nous ne cherchions plus à faire retour sur nous-mêmes. Et puis la réponse, c'est enfin de nous éloigner du mal pour les motifs que je vous ai donnés, reconnaître la malice du démon, reconnaître notre dignité, surtout la dignité du chrétien, race royale, dit Saint Pierre, peuple saint, dit-il dans une épître, et revenons par conséquent à Jésus-Christ, demandons-lui de nous sauver du péché, ayons cette ferme confiance que du moment que nous nous attachons à lui, il rendra possible tous nos efforts, rien ne sera difficile, même les choses difficiles deviendront faciles grâce à lui. Encore une fois, puisqu'il s'agit de l'incarnation, tournons-nous vers la très sainte Vierge qui nous donne Jésus-Christ. Et en nous donnant Jésus-Christ, elle a été chargée pas seulement de le mettre au monde, pas seulement de nous le donner comme on peut mettre un petit enfant dans les bras de quelqu'un, elle nous apprend qui il est, elle nous donne la grâce pour comprendre et pour suivre, pas seulement comprendre mais pour le suivre, elle nous donne la grâce pour nous oublier nous-mêmes comme elle l'a fait, elle s'est oubliée elle-même pour être pleinement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, méditez bien, vous avez là dans ce sermon vraiment des sujets profonds de méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.